Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Je m'appelle Anne et j'habite dans le nord-est de l'Angleterre. J'ai un accent, oui, quand je parle français, mais honnêtement, je suis pratiquement bilingue aujourd'hui. J'étais prof de langue avant que le Seigneur ne me convainque que ce n'était pas mon rôle de changer notre enseignement national là-bas. Et c'était plutôt mon rôle de partir, comme je fais aujourd'hui. Et alors, avec mon mari, Alwyn, c'est un Gallois. Lui, il est convaincu, il est absolument convaincu que tous les panneaux qui pointent vers le ciel sont écrits en gallois. Il faut vraiment prier pour lui parce qu'il a cette conviction. Il a dit, mais quand même, chérie, nous, on a eu beaucoup de réveils. J'ai dit, mais qui va pouvoir prononcer il est Hanverfahren. Et je me souviens d'un groupe de Français, des amis, qui avait décidé d'aller dans le sud du pays de Galles. Et on est allé les retrouver parce qu'une fille, une amie à moi, elle devait nous accompagner en Islande après. J'ai fait beaucoup de voyages. Et on est descendu. Et mes amis sont en train de dire, mais personne ne nous comprend ici. On s'est perdu en voiture. Et on a demandé où était la ville de Lanelli. Je dis, quelle ville? Lanelli! Je dis, mais je ne comprends pas, pas moi-même. Je ne suis pas étonnée, mais où vous vouliez aller? Mais Anne, Lanelli! Et ils ont dit, ils ont dit autre chose. Je dis, mais vous voulez dire Hanelli? Oui, c'est ça qu'on dit, c'est Lanelli! Personne n'a rien compris. Alors, mon mari, c'est un Gallois. Et lui, il est resté, il travaille encore dans le monde. Il est resté avec notre communauté. On a une semaine, nous-mêmes, on va recevoir un orateur mardi soir, quelqu'un du Canada cette fois. Et le Seigneur nous a demandé, il y a quelques années, d'implanter une école de prophètes dans le nord-est de l'Angleterre. Alors, on n'est pas une église classique, si vous le voulez, parce que je suis pasteur aussi, mais je suis plutôt pasteur pour le peuple très, très prophétique. Ouais. Et chaque membre de notre communauté, vous pouvez arriver le dimanche, vous pouvez essayer de mettre la façade. Oui, moi, ça va. Oui, moi. Et quelqu'un va tout de suite venir dire, mais j'ai rêvé de toi. Écoute, ça se passait comme ça. Ouais. On ne peut pas se cacher quand il y a des prophètes comme ça. Oui, je t'ai vu, c'est ça que tu faisais. Ouh, hein. Et le Seigneur te disait, mais il fallait peut-être arrêter là. Mais on est ensemble depuis 13 ans maintenant, Liz. Et Liz et son mari Jonathan sont dans notre leadership. Et elle aussi, elle fait partie de notre équipe pastorale, vu que moi, je suis partie assez souvent. Je dis que parfois, mais l'assemblée est un peu triste. Normalement, ils sont dans la joie. Je dis toujours, quand la chatte est partie, les petites souris dansent. Hein? Et la louange va durer 2 heures hein, maintenant. Hein? C'est bien parti. Et les tasses de thé tout l'après-midi, pas de problème. Ah, ouais. Mais ils sentent vraiment... c'est une compagnie de prophètes que j'aime énormément. C'est plutôt le style que je sais que Françoise va comprendre. C'est plutôt le style père, mère du désert. C'est-à-dire, on passe peut-être beaucoup d'années et on s'investit dans un petit groupe de personnes. C'est-à-dire qu'on finit par se connaître très, très bien. Mais puis après, on commence... à implanter ces gens ailleurs comme leaders. Maintenant, on est presque devenu une compagnie de leaders. Et notre première petite aigle, Pamela, elle est en train de prendre son essor avec son mari et son petit garçon pour le sud-ouest de l'Angleterre. Et ce que j'ai dit, Lesla, c'est que une jeune femme qui avait énormément besoin de délivrance, qui avait mené une vie terrible, elle est venue dans la communauté il y a une bonne dizaine d'années. Et c'est une femme de Dieu qu'on est en train d'expédier dans le sud-ouest de l'Angleterre aujourd'hui. Ça, quand je dis ça, Seigneur. Quand je l'entends prophétiser aujourd'hui avec la maturité qu'elle a, ça vaut la peine. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous avez passé votre temps. Il y a eu un grand investissement et peut-être là, on attend une multiplication. Et je pense que vous êtes en train de passer dans une autre étape. Mais être en transition, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on a toujours une tentation d'aller en arrière et de reprendre l'autre, l'ancien vêtement, l'ancienne mentalité. Parce qu'on n'est pas trop sûr. Et vous allez avoir besoin des sacs, des sacs, des sacs de grâce et de pardon. Parce que ça ne va pas coller chaque fois. Il faut laisser un temps pour les expériences aussi. Vous voyez? J'imagine, souvent, c'était comme ça aussi pour les disciples de Jésus. Hein? Ils ne savaient pas. Journée typique, Jésus disparaît et puis il apparaît sur les eaux du lac, il marche sur l'eau. Alors puis il y a une histoire avec certains cochons de l'autre côté. Et Jésus, il ne montre pas trop de compassion. Simplement il dit, mais suivez-moi. Ah oui? Et j'avais l'impression que vous alliez vivre ce royaume, mais si on se plante parfois, c'est rien. Hein? On demande pardon, on libère le pardon et on traverse. Vous êtes d'accord? C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ce que vous avez, gardez, s'il vous plaît. Matthieu 16, je vais parler. J'avais déjà, je vous encourage à écouter le premier enseignement ce matin parce que ça colle un peu avec, et je vais essayer de faire un peu la suite. Et j'avais vu ce matin beaucoup d'eau qui était en train de couler comme des vagues de l'estrade, et juste comme une vague s'arrête et puis recule, puis la prochaine va aller plus loin et va reculer, et puis une troisième va venir, et finalement j'ai vu que les vagues étaient en train d'envahir la salle, de couler dans le quartier. Et là, je me suis dit, je sais où je vais aller avec eux ce matin. Et je vais parler des temps de transition et des deux églises qu'on va voir dans les derniers temps. Et Matthieu 16, et on est avec Pierre et Jésus, ils sont arrivés dans le territoire de Césarée de Philippe, qui est vraiment dans le nord, c'est pas très loin du mont Horeb. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous remarquez que ce matin, on est beaucoup dans les pensées. Et le siège de ma pensée, c'est censé être, selon la Bible, dans mon cœur. J'ai trouvé, je suis en train de faire une étude sur les pensées. Et combien de fois c'est écrit qu'il pensait dans son cœur. Il ne disait rien. C'est après. Ce que je pense dans mon cœur va sortir de ma bouche. Et comme je dis dans mon cas, souvent le moment quand il ne faut pas. Vous êtes comme moi? Eh, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Je suis sûre que vous avez entendu mille et une prédications sur les clés du royaume, sur l'apôtre Pierre. Et on pense comprendre. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est comme si l'Église apostolique naît pendant ces moments. Il faut que l'Église soit scellée par le sang de Jésus, etc. Mais Jésus même, c'est extrêmement prophétique. Il est en train de mettre ses disciples à l'épreuve. Notre frère a partagé qu'on est dans un temps d'épreuve. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment regarder, lire les prophéties. Mais en effet, ce sont des prophéties qu'ils lisent sur l'Internet. Je ne suis pas contre l'Internet, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont reçu en direct. Et normalement, bien sûr, à l'époque, l'Esprit Saint n'a pas été donné. Et c'était normal d'aller vers le prophète, d'aller vers les scribes, d'aller vers les sacrificateurs si tu voulais recevoir quelque chose. Mais ici, Jésus est là et c'est comme si il est avec Pierre et les disciples. Il a sélectionné le bon moment et c'est comme si il y a une cascade énorme qui rejoint la terre et le ciel. Et sans intermédiaire, Pierre reconnaît que Jésus est vraiment le Messie, le Christ. Ça, c'est énorme. Je pense, est-ce qu'on comprend à quel point c'était énorme? Il reconnaît déjà. J'imagine Pierre, enthousiaste. 2 minutes plus tard, il se plante. Mais qu'est-ce qui arrive là? Parce que c'est écrit aussi. Si j'étais Jésus, je pense que je vais être très déçue. Si quelqu'un a une grande révélation comme ça, Jésus lui promet les clés pour lier certaines choses énormes. Et puis, 2 minutes après, Pierre se met à prophétiser d'une façon complètement humaine. Non, ça ne va pas t'arriver. Il est en train de prophétiser, mais c'est simplement, ça vient de ses émotions. Méfiez-vous des paroles prophétiques qui viennent simplement des émotions, parce que ce n'est pas une parole valable. Et ça va faire des dégâts. Mais cette révélation est super parce que je pense que Pierre, il a tellement frotté. Je pense qu'il était collé comme ça, où Jésus était, on trouvait derrière Pierre. Il aimait tellement son maître. Et à cause de ça, c'est comme si quelque chose a été reçu dans le cœur de Pierre, qui n'avait pas encore avoué, mais il réalise qu'il est en train de parler avec le Christ. Énorme. C'est ça. Il n'y a pas de verset biblique. Je trouve que le rôle des prophètes, c'est de trouver les règles et les lois de Dieu qui sont là dans les fondements de la parole, où il n'y a pas de verset qui dit chaque fois que c'est comme ça, tu vas voir ça. Le job des prophètes, c'est de vraiment voir dans la Bible certaines règles. Et je sais, si vous voulez prophétiser comme ça, il a prophétisé, bien, mais tu es le Christ. Tu es le Christ. C'est parce que ça vient d'une expérience vécue avec Jésus. Hein? C'est normal, parce que la Bible nous dit que, en effet, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. C'est ça qui est en train d'être libéré. Entre autres, on peut faire d'autres lectures de ces versets. Il y a la possibilité de beaucoup, beaucoup de couches. Et là, certaines choses sont promises, les clés du royaume pour lier des choses, pour délier des choses. Où il y a clé, forcément il y a des portes. Je peux fermer, je peux ouvrir. C'est normal. Qu'est-ce que c'est profond ce matin? Hein? C'est comme ça. Sur quoi est-ce que le Seigneur va établir son Église? Est-ce que c'est sur le caractère de Pierre? Non, parce qu'on voit que 2 minutes plus tard, le gars se plante. Hein? Il ne va pas établir son Église sur ça. Il va établir son Église sur le roc. Et il y a une façon de voir la chose comme ça, que le roc, c'est que maintenant, le chemin est déjà ouvert entre le ciel et la terre. Oui, la révélation est donnée. Pierre, un homme merveilleux, mais il va se planter 2 minutes après. Heureusement que Dieu, il ne va pas bâtir quoi que ce soit sur notre caractère. Il bâtit plutôt sur ce qui arrive en nous, dans un être humain, quand on reconnaît qui est Jésus, et ça ouvre un chemin entre le ciel et la terre, et je peux recevoir en direct. C'est ça, pas d'intermédiaire. Je dis pas que j'aime pas les gens qui disent Dieu m'a dit et tu te prends pour qui si tu oses me contrarier. Je ne vais pas dire ça. Le Seigneur, il nous a placés avec d'autres personnes pour notre équilibre. Hein? C'est bien. Mais quelque chose d'énorme vient de se passer là. Dieu, après, il reste pareil. Jésus, tout de suite après, il commence à préparer la mise des disciples à l'épreuve, malgré ce que Pierre fait 2 secondes après. J'ai une petite idée que les autres disciples étaient peut-être dans la joie. Voilà, il s'est planté. J'imagine un peu. C'était des gars ordinaires. Vous n'allez pas me dire le contraire. Oui, moi je savais, mais je n'ai rien dit. C'est toujours lui. Ah, zut, il est tombé. Tant mieux. Désolé pour toi, Pierre. Ah, faut pas être trop spirituel dans ces choses. Mais il commence à préparer ses disciples pour sa mort. Il est satisfait que maintenant le canal est ouvert, le roc est là, le roc, la révélation de Jésus-Christ, ça c'est le roc même, oui? La révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas la peine d'avoir tes pieds sur le roc si tu ne sais pas qui est le roc. Oui? C'est-à-dire que maintenant tous les autres disciples et les futurs convertis peuvent expérimenter la même chose. Jésus, il ne reprend pas, il ne change pas d'avis. Il est déçu, il reprend la prophétie humaine de Pierre qui ne veut pas voir la mort cruelle de Jésus. Ouais. Mais il doit apprendre aussi, l'apôtre Pierre. Il y a deux églises qui vont se lever, qui sont déjà là, surtout à la fin des temps. Il y a une église qui va bien commencer, qui va un jour avoir une révélation en direct du ciel. Et leurs pieds sont ancrés sur le roc. Mais ils décident qu'ils vont rester là. Pas possible de leur parler d'autre chose. Et au lieu d'écouter, de rester sous la cascade de révélation, ils vont garder les pieds, pas sur le roc qui est Jésus, qui est l'esprit prophétique, le témoignage de Jésus, l'esprit prophétique. Ils vont, petit à petit, ils vont réaliser qu'ils ne sont pas maintenant sur le roc. Le roc est juste leur théologie humaine. Oh, vous voulez parler de temps de transition. Et ce n'est pas Dieu qui va changer pour nous. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'a pas été crucifié. Il y a des choses, ça va rester. Mais il y a des choses. Parce que on est... J'aime pas trop le mot réveil. Je suis plutôt convaincue que ça fait partie d'un processus de réforme. Dans ma propre famille en Angleterre, je viens d'une famille de réformateurs. Un côté de ma famille, c'était des escrocs, c'était les bandits de la frontière anglo-écossaise. Heureusement que l'autre partie, c'était des réformateurs qui a vraiment changé l'histoire de ma nation. Je pense que je vais voter avec ces gens-là pour mon héritage. Mais quand on est en transition, qui est en transition? Est-ce que Jésus est en transition? Pas trop. Nous, on est en transition. Parce que là où je me tenais, peut-être certaines positions, moi par exemple, vous allez être surprise, mais il y a 30 ans, je ne croyais pas que la femme devait exercer le ministère. J'y croyais de tout mon cœur. Honnêtement et sincèrement. Et c'était le choc complet pour moi quand le Seigneur m'a appelé. Et ce n'était pas Dieu qui devait changer, c'était ma petite théologie qui devait changer. Parce que je me suis dit, si je suis appelée comme prophète, c'est quand même bête si je ne peux pas parler. Mais il a fallu plusieurs années. J'ai réalisé que cette théologie était humaine. La cascade de révélation avait pris une expansion. Et ce n'était pas Dieu qui allait changer, c'était moi qui devais changer. Et ça m'a coûté. Vous savez, j'étais dans l'église anglicane et quand ils ont commencé à ordonner les femmes comme prêtres, je ne voulais pas accepter la Sainte Cène si c'était une femme prête qui devait... J'allais très loin. Vu que je suis femme, aujourd'hui je dis je suis femme et chaque matin je me réveille, je suis toujours femme et mon mari il est très content. Hein? Ça ne va pas changer. Heureusement, oh, oui. On est mariés depuis très longtemps, on est grands barons aujourd'hui. Mais quand on est en transition, il y a des choses qui doivent changer. Et des choses peut-être qu'on n'a pas vues dans nos églises qui vont... normalement, c'est quelque chose qui était accepté dans le passé, qui va revenir. Mais parfois, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Hein? Et il va falloir la parole pour vraiment comprendre, parce que moi, je veux être avec cette église qui reçoit les clés. N'est-ce pas? Je veux voter, je suis en permanence, je veux être membre de l'église qui bouge avec la révélation. Parce qu'autrement, c'est clair qu'il y a une autre église qui va refuser de bouger et qui va perdre son autorité qui va être vaincue par le séjour des morts. Probablement, ils vont avoir de très belles funérailles chrétiennes. On va les voir dans le ciel, mais ils ne vont pas pouvoir accomplir leur destinée. Pierre, ce n'était pas fini ce jour-là. Bien sûr, parce que Pierre, il était extrêmement têtu. Sa théologie devait changer et la nôtre aussi doit changer. Ça dépend, je ne vous connais pas encore. Mais vraiment, préparez-vous à devoir mettre beaucoup de choses à l'épreuve. La parole, heureusement que la parole, ce n'est pas juste les pages de ma Bible. La parole est une personne qui parle avec moi, qui s'appelle Jésus-Christ, heureusement, ok, et qui va toujours nous aider à aller plus loin. Pierre, qu'est-ce qui arrive? Je suis grand-mère, ça ne m'embête pas du tout, les enfants et tout ça. Moi, je suis capable de prêcher bébé entre mes bras. Mon mari, très fort, il peut faire comme ça, deux bébés, pas de problème. Pierre, la Pentecôte, de nouveau, quelque chose a changé. Et quand Dieu veut opérer un changement gouvernemental, normalement, il faut une nouvelle révélation. Ce n'est pas nouveau pour Dieu, c'est nouveau pour lui. Et bien sûr, depuis quand l'Église voit le parler en langue? Et, depuis quand les flammes de feu, ce n'est pas de chaque culte de dimanche qu'on voit ça? Et Pierre, de nouveau, doit se mettre, si vous voulez, si vous aimez l'image, sous la cascade de révélation, et il reçoit, le prophète Joël a prophétisé ça. Et parce que lui, il coule avec la révélation, de nouveau, il est sur le roc, et l'Église commence à faire ses premiers disciples. Voilà. Heureusement que Pierre change là. Heureusement qu'il dit, pas possible, je refuse. Puis, plus tard, la première église est messianique. Il n'y a que les juifs. Qu'est-ce qui arrive? Et souvent, Dieu, il permet des extases, il permet des songes. Et plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qui arrive? Parce que nous, on sait, ce n'est pas nouveau pour Dieu. C'est déjà comme l'histoire d'Abraham. Dieu veut utiliser Abraham pour être une source de bénédiction pour toutes les familles. Mais bien sûr, Pierre, il est bloqué. C'est la première fois. Il doit réaliser où l'Église en est. Et Dieu doit le mettre dans des extases. Mais je pense qu'il est profondément endormi en attendant à manger. Et il voit la nappe descendre. Et de nouveau, ça lui permet de changer. Et de dire, je comprends de nouveau. Il reçoit de nouveau une clé. Comme quoi, maintenant, les gentils peuvent rentrer avec les juifs dans cette première église. Heureusement pour nous. Et l'église change de nouveau. Le roc de la nouvelle révélation donnée par l'Esprit Saint est là. Et l'église bouge. Et ce n'est pas la fin, juste parce que c'est la fin de la Bible. Ça va continuer, à mon avis, jusqu'au retour de Jésus. Hein? Ces années récentes, qu'est-ce qu'on a vu comme mouvement de Dieu? Le seul problème avec un mouvement de Dieu, c'est que ça inclut les hommes et les femmes. Si c'était juste Dieu, ça serait parfait et différent. Mais parce qu'il y a des hommes et des femmes, là, on doit vraiment avoir le discernement que j'ai mentionné ce matin. Pas critique, discernement, c'est pas la même chose que critique. Et qui veut normalement dire, je vois tout ce qui ne va pas dans cette église-là, avec une acuité étonnante. On a vu des mouvements. Dans ma région, je suis née dans la ville où il y a eu 7 réveils La ville s'appelle Sunderland. C'est là où Smith Wigglesworth, je dis pour vous parce que c'est un nom de famille difficile, il a reçu le baptême dans l'Esprit Saint, dans ma ville. C'est là où l'église celtique a eu un premier réveil. Les baptistes aussi ont eu, dans les années 70, ils ont eu un réveil. C'était la découverte, redécouverte, c'était pas nouveau pour Dieu, du ministère de délivrance. Et c'était, je ne sais pas, je vous dis parce que peut-être ça vous intéresse. Et je sais où est cette église, c'était la ville de Sunderland. Je ne suis juste pas enterrée parce que je sais que vous êtes comme ça. Et ça a choqué beaucoup de gens. Ils sont en train de parler des démons, mais on sait que les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons. On était tellement... sûr, mais il a fallu, après ce réveil-là, il a fallu peut-être remodeler notre théologie parce que Dieu, il avait déjà montré que ce n'était pas le cas. Voilà. Et puis, dans ma ville, ils ont redécouvert le parler en langue. C'était l'église anglicane. Quel choc que Dieu, il puisse encore utiliser l'église anglicane, non? Il a utilisé un prêtre anglican soutane et tout, mais qui avait soif de voir quelque chose, et les gens là-bas se sont mis à parler en langue. C'était un peu le choc. Les premières réunions pentecôtistes, Alexandre de Body, hein? Et les gens parlaient en langue, mais il était de ma ville. Quand, pas si, quand vous viendrez, je connais la dame. Ah, je connais la dame qui garde la clé pour le bâtiment. Je ne suis pas bête. Ah non, elle s'appelle Marianne. Et chaque fois que je veux rentrer, j'ai la permission de Marianne. Elle a la clé. C'est vraiment bon conseil. Toujours connaître la personne qui a les clés. Ça commence avec lui. Et j'avais l'impression qu'ici, vous allez découvrir des clés. Ce que vous avez vu ce matin, c'est juste une première expérience de vraiment de beaucoup de choses. Hein? Ça va pour vous? Alors, j'espère que vous allez voter pour rester membre de l'Église qui tient les clés du royaume du ciel. Oui, parce qu'autrement, hein? Je ne sais pas, sans doute le cercueil va être merveilleux et les funérailles glorieuses, mais... toi, tu seras mort et c'est trop dommage si tu n'as pas encore accompli ton appel. D'accord? Hein? Et on va de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ésaïe 6, je vais terminer un peu avec ça. C'est bon encore? C'est bon? Ésaïe 6, c'est connu parce que c'est la grande vision. Du prophète Ésaïe. Et je ne vais pas tout lire ce matin, mais je veux utiliser ce passage glorieux, merveilleux, pour prouver quelque chose pour aujourd'hui, pour les gens qui sont en transition. Parce que le Seigneur, il demande de nous aujourd'hui un certain réalignement, un certain repositionnement. Moi, pour moi, chose principale, c'était d'abandonner la théologie qui me dit « je peux travailler dans le monde, mais je ne vais pas exercer le ministère dans l'Église ». Ça m'a coûté. Ça a coûté aussi à mon mari. Hein? Et on est dans une année où le Seigneur nous dit « soyez réalignés ». Et réaligner, ça suggère que là où je me tenais avant, c'est plus où le Seigneur veut que je sois aujourd'hui. Ça commence avec des décrets, ça commence avec le désir de mon cœur que j'ai entendu. Vous m'avez touché le cœur, honnêtement. Parler, ça m'a fait un bien. Seigneur, c'est Paris qui prie comme ça. Merci Seigneur. Là, je suis émerveillée. Pourquoi est-ce que Ésaïe est expédié? Parce qu'il comprend certaines choses. Il est en train d'être réaligné lui-même. Il y a une dame américaine qui dit qu'une bonne définition d'un réalignement, c'est de vérifier certaines choses. Vérifie si tu es la bonne personne. S'il y a une tâche, est-ce que toi, tu es la bonne personne pour l'accomplir? Puis, est-ce que tu es avec les bonnes personnes? Puis, est-ce que tu es dans le bon timing de Dieu? Puis, est-ce que tu es au bon endroit? Et finalement, est-ce que tu es prêt à faire de la bonne manière? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Demander plutôt à Gédéon ce qu'il pensait à la bonne manière de combattre de Dieu. Ah non, ton armée est trop grande. De la bonne manière. Et quand ces cinq éléments sont ensemble, de nouveau, il y a un passage qui est ouvert entre le ciel et la terre. Ésaïe, cette vision correspond. Il est au bon endroit, dans le temple. Il est dans le bon timing de Dieu. Bien sûr, il y avait leur protocole. Tu ne pouvais pas te présenter quand toi tu voulais. C'était quand c'était à toi. Tu ne pouvais pas arriver dans n'importe quel culte, non. Ils respectaient, Ésaïe, le protocole du ciel. Et nous devons respecter le protocole du ciel. Nous, comme nation, on est très, très fortes pour le protocole des choses. C'est un temps de transition. C'est l'année de la mort du roi Ozias. Temps de transition dans la nation. Est-ce que lui, il agit de la bonne manière? Oui, parce que quand il réalise ce qui est en train d'arriver, il panique. Il réagit. Moi, malheur à moi, mes lèvres sont impures, même lui. Il réagit de la bonne manière. Et parce que lui, il est bien aligné et parce qu'il est prêt à être complètement réaligné, ça le qualifie pour pouvoir être à l'écoute d'une, si vous voulez, une réunion dans le gouvernement du ciel. Vous voyez? Il est comme Pierre, déjà en lignée directe, au bon endroit, dans le bon timing de Dieu. C'est la bonne personne. Il est avec ses camarades, les autres prêtres, je suppose. Et quand on est comme ça, au bon endroit, c'est comme s'il y a une cascade qui rejoint, même après la Pentecôte. C'est pareil, si je suis bien aligné, là, je suis qualifié parce que maintenant, Ésaïe, il va entendre ce qui se dit dans le ciel. Si tu n'es pas la bonne personne, ça ne va pas marcher. Si ce matin tu as dit, mieux je ne vais pas ce matin au culte, peut-être tu vas passer à côté de ton kairos. Ok? Et c'est ça qui est important dans le maintenant de Dieu. Et je crois que vous avez un appel comme communauté ici. Je sais que vous faites deux cultes, mais vous avez un appel où le Seigneur, il va vous repositionner et vous allez entendre avec une acuité merveilleuse le cœur de Dieu au ciel pour Paris, pour vous. J'ai bien expliqué? Et ça donne accès au gouvernement de Dieu. Ils sont en train de dire, mais qui est-ce qu'on va envoyer? Il y a beaucoup de gens qui courent à droite et à gauche. Ils supposent qu'ils sont envoyés, mais ils n'ont jamais été dans cette ligne directe. Ils n'ont jamais entendu le cri de cœur. Ésaïe a répondu, c'est un volontaire. Dieu n'a pas dit, Ésaïe, c'est toi que je vois. Simplement, il a entendu. Pour moi, très important de le savoir. Quand le Seigneur m'a envoyé, les gens ici le savent, le Seigneur m'a envoyé en Iran. Je n'ai pas besoin de vous pour dire que c'est dangereux. Mais j'avais entendu la conversation du ciel qui disait, tout le monde veut aller en Israël. Qui va penser à mon peuple? en Iran. Et j'étais dans mon cœur, j'étais mal. Et j'ai dit, mais moi, je veux y aller. Il n'y a jamais eu d'ordre. C'est après, quand tu acceptes, moi, prends-moi. Si tu m'organises le visa, je pars. C'était un voyage merveilleux qui m'a changé ma mentalité sur l'Iran. Autre exemple, j'en avais besoin. Je ne voulais pas mettre les pieds dans une mosquée. Jésus dit, quel dommage ma fille, moi j'y vais. Faudrait que tu arrêtes, Jésus. Non. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je vais parce qu'il y a des gens là-bas qui cherchent la vérité. Ils ne savent pas que moi, je suis la personne de la vérité. Et je peux y aller. Je dis, ok Seigneur, je te suis. Les trois mages iraniens, Cyrus, Perse, Daniel, Esther, qui veut dire, oh mais j'ai l'onction d'Esther, super, mais vous savez où elle est enterrée? En Iran. Hein? Ça change mes idées. Ça change mes idées. Et c'est ça que Dieu, le Seigneur veut aujourd'hui, parce que j'avais ma petite théologie que moi-même j'avais développée toute seule, sans l'aide de l'Esprit Saint. Mais quand cette épée que j'ai mentionnée ce matin traverse le cœur, je réalise qu'en effet, j'ai jugé. Je pense que je comprends les choses mieux que Dieu. Non, celui qui est la vérité va dire, mais moi j'y vais. Toi, tu me suis. Qui sait où vous allez finir? Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que ça puisse être compréhensible. Seigneur, je prie pour ces deux cultes, pour ces deux enseignements. Seigneur, que les gens puissent vraiment commencer à réaliser que tu les as pris au sérieux. Seigneur, qu'ils puissent avoir de plus en plus ton cœur, qu'ils puissent, comme Pierre, se mettre toujours en alignement avec ton gouvernement dans le ciel, qu'ils puissent entendre ce qu'il faut faire dans le maintenant de Dieu. Seigneur, tu veux aller très très loin avec cette église, je vois. Je comprends. Seigneur, tu les protèges de toute fausse révélation, de toute petite prophétie qui vient de l'être humain, qui vient des émotions. Seigneur, qu'ils puissent se laisser repris, même s'il le faut comme Pierre. Seigneur, je prie que tu puisses les garder dans ce temps de transition. Seigneur, qu'ils puissent bouger, couler avec tout ce que tu veux faire en eux aujourd'hui. Seigneur, je ressens ton cœur. Je ne sais pas, je sais pas qui c'était que je vois, mais Seigneur, aujourd'hui, cette personne fait partie de la nuée des témoins. Et cette personne, aujourd'hui, Seigneur, est très très contente que le manteau est en train de passer. Ouh, c'est ça que je vois, que le Seigneur est en train de présenter un manteau ici, une onction spécifique, particulière. Et Seigneur, qu'il puisse couler avec ça beaucoup plus loin que la première personne qui l'a porté. Merci pour ce témoignage-là. Il est temps d'aller plus loin. Merci Seigneur, on a tous besoin d'être réalignés, qu'on puisse vérifier chacun. Peut-être je ne suis plus avec les bonnes personnes, peut-être je réalise que je n'ai pas suivi le protocole du ciel, peut-être je réalise qu'il y a une partie de la théologie que moi j'ai développée qu'il va falloir changer parce que ce n'est plus en accord avec ta pensée. Seigneur, je sais que tu vas libérer les appels, je ne peux pas faire ce matin. Peut-être on va faire au mois de novembre. Je prends un moment, Seigneur, que cette parole puisse descendre dans les cœurs. Seigneur, c'est du bon terrain ici, du bon terrain. Qu'il puisse voir le ciel ouvert. Non seulement pour Colombe, mais pour cette grande ville de Paris aussi. Hein? Je vous bénis et on va se revoir au mois de novembre et je vais peut-être développer un peu plus ces choses.